Merci bien sûr de l'invitation de l'Université populaire de Lyon pour intervenir ce soir. Alors j'ai compris que je venais clôturer un cycle de 4 conférences en tout sur le thème du nucléaire et qu'il y avait donc eu déjà 3 interventions d'experts et de scientifiques sur le nucléaire. Donc moi je ne suis pas une experte scientifique, je ne suis pas énergéticienne. Je suis, comme ça vient d'être dit par Françoise Bressa, je suis conseillère régionale Rhône-Alpes. Et à ce titre, en tant que représentante du peuple, eh bien, soumise à une obligation morale et politique de me tenir au courant des grands débats de société qui nous agitent. Et à défaut d'expertise technique et scientifique, je suis bien servie pour intervenir aujourd'hui, puisque, comme certains d'entre vous l'ont peut-être vu, aujourd'hui, nous avons une actualité particulièrement riche sur la question du nucléaire, puisque à la mi-journée a été publié le rapport de la Cour des comptes qui avait été commandé suite au drame de Fukushima au Japon, qui avait donné lieu à plusieurs commandes. Alors, on avait déjà eu un premier rapport de l'autorité de sûreté nucléaire qui a fait ses recommandations en matière d'investissement sur la mise aux normes en termes de sécurité d'un certain nombre de centrales. Et donc aujourd'hui, ce rapport qui est sorti, alors je vous le dis tout de suite, c'est un rapport qui fait 400 pages, donc je n'ai pas eu le temps de le lire intégralement avant de venir ici ce soir. Mais malgré tout, il y a déjà un certain nombre d'extraits qui ont été publiés et d'analyses et de publications des conclusions, qui font d'ailleurs titrer à la une du Monde de ce soir, donc daté de demain, que la France n'a pas aujourd'hui les moyens de remplacer un parc vieillissant. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la une du Monde donc de demain matin. Et je pense que ce rapport fera date dans le débat public sur la question du nucléaire et des choix énergétiques en France. Alors, pour vous donner quand même quelques éléments par rapport à ce qu'il y a dans ce rapport, la première chose, c'est que la Cour des comptes a fait la somme de l'ensemble des sommes déjà investies, que ce soit à titre public ou privé, dans la filière électronucléaire. Et cette somme donc d'argent déjà investie s'élève aujourd'hui à 228 milliards d'euros, avec une estimation des coûts de maintenance du parc nucléaire français qui, selon ce rapport de la Cour des comptes, devrait doubler et s'élever à 3,7 milliards d'euros par an. Donc ça, c'est pour avoir des grandes estimations en termes de chiffres en tête, sachant que dans ces estimations-là, la Cour des comptes souligne des incertitudes sur notamment 2 postes importants. Le premier, c'est la question du démantèlement des centrales nucléaires arrivées en fin de vie. Vous savez qu'aujourd'hui, le démantèlement de ces centrales est un des sujets de débat, puisqu'il y a très peu d'expérience en France, mais également dans le monde, et que les quelques expériences en cours de démantèlement se heurtent à un certain nombre de difficultés qui en augmente le coût par rapport aux prévisions de départ. Alors, pour l'instant, le rapport de la Cour des comptes évalue le coût de ce démantèlement sur donc les 58 réacteurs existants aujourd'hui en France à 18,4 milliards d'euros, sachant que ce sont des coûts qui s'étalent dans le temps, puisque pour vous donner un autre exemple, au Royaume-Uni, à Berkeley, existe un site qui, même s'il n'est pas tout à fait comparable au site que nous avons en France, est un site qui a été en activité pendant 27 ans et dont le démantèlement est aujourd'hui estimé à 122 ans, avec un temps long, notamment relatif à la gestion des déchets radioactifs encore sur place. Et cette question de la gestion des déchets radioactifs, justement, c'est le deuxième point qui est souligné par le rapport de la Cour des comptes comme étant un point d'incertitude et d'hésitation sur l'estimation de ces coûts. puisque d'après l'ANDRA, qui est l'agence nationale qui se charge de la question de cette gestion des déchets radioactifs, leurs estimations à l'ANDRA a déjà doublé simplement entre 2005 et 2009 et en est aujourd'hui à 30 milliards d'euros. Donc, deux points d'incertitude sur le démantèlement et sur la gestion des déchets radioactifs qui pourraient, selon le rapport de la Cour des comptes, alourdir l'addition au final. Alors, une fois qu'on a dit ça, la Cour des comptes rappelle également qu'à fin 2022, donc dans 10 ans, 22 réacteurs nucléaires en France sur l'ensemble de ces réacteurs auront atteint 40 ans. 40 ans qui est aujourd'hui ce que la Cour des comptes estime être l'arrivée en fin de vie de ces réacteurs. Sachant tout de même que, à l'origine, au moment de la conception, les concepteurs étaient sur une durée de vie de 30 ans, notamment des cuves qui sont dans ces réacteurs. Donc la Cour des comptes prend ses 40 ans et estime que si fin 2022, on part du principe que ces 22 réacteurs sont arrivés donc en fin de vie, il faudrait d'ici là, pour les remplacer, avoir construit l'équivalent de 11 EPR. Les EPR, c'est cette nouvelle génération de réacteurs hein, qui a été lancée récemment et qui est notamment en construction avec deux projets à Penly et à Flamanville et puis également un autre projet dans les pays scandinaves. La conclusion par rapport à tout ça du rapport de la Cour des comptes, c'est que la France aujourd'hui n'a pas les moyens de remplacer l'ensemble de son parc et qu'il faudra donc soit prolonger les réacteurs au-delà de leur fin de vie, avec ce que ça implique en termes de problèmes de vieillissement des installations, comme on peut le voir sur un certain nombre de centrales qui aujourd'hui ont déjà dépassé les 30 ans. Je pense à la centrale de Fessenheim, dont on parle régulièrement, mais il y en a beaucoup d'autres. Moi, je viens de la Drôme, il y a Tricastin, par exemple, qui a aussi dépassé ses 30 années. Donc, soit prolonger au-delà de 40 ans, soit mettre en place un scénario alternatif qui puisse combiner à la fois des économies en termes de consommation d'énergie et singulièrement d'électricité et le développement des énergies renouvelables. En tout état de cause, ce qui est sûr, c'est que le fait aujourd'hui de ne pas prendre de décision par rapport à l'avenir du nucléaire en France impliquerait de fait une décision de prolongation. Donc c'est bien aujourd'hui qu'il faut prendre une décision. Cette décision, selon moi, et je crois qu'on est quelques-uns à partager cette conviction, c'est une décision qui ne peut pas appartenir qu'à des cercles d'experts. Ce n'est pas non plus une décision qui ne pourrait appartenir qu'à des ministres ni même à un gouvernement. Ce sont des décisions qui engagent l'ensemble de la société, l'ensemble des citoyens et qui engagent même au-delà les générations à venir, notamment sur la question de la production de déchets qui sont radioactifs bien au-delà d'une génération d'êtres humains. Et donc ce débat-là, selon moi, selon nous, c'est un débat qui doit être public, qui doit être citoyen et qui doit surtout être sérieux et argumenté et dépasser à la fois les débats purement d'experts. Alors j'ai absolument rien contre les experts, hein, je le dis tout de suite, bien au contraire, et nous avons la chance en France d'avoir des chercheurs et des scientifiques de haut niveau, mais il y a aussi d'autres dimensions dans le choix d'une politique énergétique qui sont des dimensions politiques au sens noble et citoyen du terme, donc pas des décisions politiciennes ou politicardes, mais des décisions politiques au sens de la chose publique qui intéressent l'ensemble des citoyens, et c'est un véritable choix de société. C'est la raison pour laquelle je suis très heureuse d'être là ce soir. Alors je n'ai pas prétention à apporter des réponses à toutes les questions, mais simplement à venir peut-être éclairer certaines certains éléments, certaines parts du débat, et puis surtout à lancer ce débat dont je suis sûre qu'il sera vif ce soir encore, parce qu'il l'est toujours. Simplement, voilà, essayons en tout cas de dépasser le débat purement idéologique entre les pros et les anti-nucléaires. Je crois que c'est un débat qui mérite beaucoup mieux que ça et qui va au-delà de postures idéologiques. Donc je vais essayer de revenir un petit peu sur les différents éléments qui sont mis au débat. Vous me pardonnerez d'avoir des positionnements parfois partisans, au sens où j'ai moi-même mon opinion sur ce choix, et je vous en ferai part de la manière la plus honnête et la plus sincère possible, mais sans prétendre imposer cet avis à tout le monde, et plutôt en essayant de passer par la conviction et par le débat argumenté. Alors juste avant de revenir sur les éléments de ce débat, j'ai parlé de ce rapport de la Cour des comptes, parce que là on est vraiment dans l'actualité et qu'en plus ça a le mérite justement de sortir d'éléments dogmatiques. On ne peut pas trop soupçonner la Cour des comptes, malgré quelques reproches qu'on pourrait lui faire, d'avoir une position dogmatique sur ce sujet. Il y a eu d'autres éléments, puisque évidemment, depuis la catastrophe de Fukushima, l'opinion publique s'est largement emparée de cette question du nucléaire, et qu'il y a eu toute une série d'éléments qui sont venus raviver ce débat et l'alimenter. J'ai parlé tout à l'heure du rapport de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire. Il y a d'autres éléments d'actualité qui vont aussi dans le sens de la politique énergétique et qui touchent d'autres domaines. Je pense notamment à la question sociale, puisque il n'y a pas très longtemps non plus, le 18 janvier dernier, la CRE, qui est la Commission de régulation de l'énergie, a elle aussi fait un rapport disant qu'elle anticipait une hausse des tarifs de l'électricité de 30% d'ici 2016. Et cette question des tarifs et de l'accès à l'énergie est évidemment aussi une question éminemment politique qui doit être prise en compte dans ce débat-là. La question de l'accès pour tous à l'énergie, qui est un bien fondamental nécessaire à la survie et à une vie digne et décente, est évidemment un élément, d'autant que la question des tarifs de l'électricité est au cœur du débat sur le nucléaire, puisque souvent on entend cet argument. Alors de part et d'autre, on a souvent l'argument que l'électricité nucléaire serait une énergie peu chère, et permettant justement au plus grand nombre d'accéder à de l'énergie bon marché. Là, les derniers éléments ne vont pas tellement dans le sens d'une énergie bon marché quand on regarde les coûts en termes d'investissement, de maintenance qui sont nécessaires, et surtout quand on regarde l'ensemble de la chaîne, puisque si on réinternalise la question des coûts en prenant tout le cycle de vie de l'extraction de l'uranium, son acheminement, la construction des installations, leur démantèlement et la gestion des déchets, on arrive à des estimations de coûts du kilowattheure qui ne sont pas tout à fait celles qu'on a l'habitude de voir en général. Il y a eu également polémique autour de la question de l'EPR. Je pense notamment à un article qui a fait sensation, qui est sorti dans La Tribune, feu La Tribune, qui n'existe plus, et qui relatait l'avis de certains dirigeants d'EDF qui eux-mêmes disaient que l'EPR était économiquement et stratégiquement une erreur de la part d'EDF, avec un EPR qui se vend plutôt mal à l'étranger, qui rencontre beaucoup de difficultés sur les projets en cours. Et puis enfin, dans cette actualité, un rapport Avenir, Énergie 2050, qui sera un rapport complet sur les questions de politique énergétique, qui a été commandé par le ministre Besson et qui lui sera remis normalement le 13 février. Donc retenez cette date, parce que ça devrait là aussi réalimenter le débat sur les politiques énergétiques. Alors pour revenir sur le débat sur le nucléaire de manière plus spécifique, dans les arguments qui sont régulièrement avancés en faveur d'une sortie de cette filière électronucléaire. On peut, si on reprend au début de la chaîne, comme je le disais à l'instant, il y a la question tout d'abord de la ressource première qui est l'uranium. Avec un premier argument qui est là aussi souvent mis en avant par ceux qui sont favorables au nucléaire, qui est la question de l'indépendance énergétique de la France. Il faut rappeler à ce sujet que la France ne possède plus de mines d'uranium sur son territoire et que l'uranium, qui est une source d'énergie fossile, donc limitée, est aujourd'hui extraite dans d'autres pays à l'étranger et avec des réserves d'uranium qui sont estimées, alors c'est toujours très difficile d'estimer les réserves parce qu'il y a plein de chiffres qui circulent, mais en gros, la fourchette est entre 30 et 80 ans avec les techniques actuelles d'utilisation de ce minerai. Avec évidemment une autre question qui se pose, qui est la question des rapports nord-sud à l'international entre les pays, avec des conditions d'extraction de cet uranium qui sont régulièrement critiquées et mises en question concernant les conditions de travail, les conditions d'hygiène et de sécurité et l'impact sur les travailleurs et sur les populations de ces mines d'uranium en matière à la fois de santé publique et de pollution de l'environnement sur les sites d'extraction d'uranium, avec en plus qui se télescope avec ces critiques-là, une inégalité de consommation énergétique entre les pays dits du Nord et les pays dits du Sud très importante, puisque sur un rapport de consommation en tonnes équivalent pétrole par an, si on considère que la France aujourd'hui est à 4,4, c'est un indice. L'Afrique est à 0,7 et les États-Unis, eux, sont à 7,9. Quelque chose qu'on voit très bien, vous avez peut-être déjà vu visuellement des photos du monde de nuit avec les parties illuminées et les parties sombres sur une planisphère. On constate très bien effectivement que les zones d'éclairage de nuit sont extrêmement concentrées dans les pays dits occidentaux ou industrialisés. Un deuxième argument au débat qu'on entend évidemment extrêmement souvent est la question du risque d'accident. Il y a eu l'épisode Fukushima. Avant ça, il y avait eu Three Mile Island aux États-Unis et bien entendu Tchernobyl, avec là aussi des controverses sur d'autres risques d'accidents industriels, notamment dans l'industrie chimique. C'est souvent ce qui est mis en avant dans le débat par les partisans du nucléaire. Rappelons tout de même que les conséquences d'un accident nucléaire ne sont absolument pas comparables avec les conséquences d'un accident industriel d'une autre nature, notamment en termes d'impact et en termes de durée des conséquences sur les zones dans lesquelles ces catastrophes ont lieu. Ensuite, il y a la question dont je parlais tout à l'heure par rapport au rapport de la Cour des comptes, la question donc du démantèlement et des déchets. J'en ai parlé déjà en introduction, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Sachez simplement qu'aujourd'hui, selon les sources officielles de l'ANDRA, il y aurait en termes de déchets nucléaires des déchets qui sont stockés aujourd'hui dans 1200 sites différents en France et qui représentaient en 2007 1 million de tonnes de déchets, avec évidemment différents types de déchets qui sont plus ou moins radioactifs et dont la durée de radioactivité est plus ou moins longue. Mais ce qui fait dire quand même à un certain nombre d'acteurs du débat que quand on parle de sortir du nucléaire en X dizaines d'années, en réalité, on commet là un abus de langage, puisque la sortie du nucléaire ne sera de toute manière réellement effective que le jour où le dernier gramme de déchets radioactifs ne sera plus radioactif, et ça devrait malheureusement prendre beaucoup plus que quelques dizaines d'années. Enfin, il y a la question donc du coût du nucléaire. Là aussi, je ne reviens pas sur tous les chiffres que j'ai donnés de la Cour des comptes, avec tout de même une constatation simple mais éclairante, qui est que tout l'argent qui est investi dans le nucléaire n'est pas investi ailleurs, ce qui est une des explications au retard qu'a pris et que continue à prendre la France sur le développement des énergies renouvelables, mais aussi de l'efficacité énergétique. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Je rappelle quand même, là aussi, pour avoir des chiffres en tête, que l'EPR, qui a largement dépassé ses estimations de coûts de départ, puisque aujourd'hui, si mes derniers chiffres sont bons, on doit en être à une estimation à peu près de 6 milliards d'euros pour la construction et la mise en route d'un EPR, sachant qu'il y en a plusieurs de prévus dans les cartons du gouvernement actuel. Donc voilà les principaux arguments qu'on entend généralement dans le débat sur le nucléaire. Il y en a un autre dont on entend peut-être un petit peu moins parler et qui est pourtant fondamental, c'est la question démocratique et citoyenne de ce choix du nucléaire qui est régulièrement critiqué, notamment par des associations, sur son manque de transparence. Rappelons tout d'abord que c'est un choix qui a été lancé en France sans qu'il y ait de consultation populaire et sans qu'il y ait non plus de débat parlementaire. Donc c'est un choix qui, jusqu'ici, n'a jamais été soumis à un référendum citoyen de quelque sorte que ce soit, ni direct, ni par le biais de la démocratie représentative, ce qui fait qu'il y a un certain nombre d'associations, mais aussi de plus en plus de militants et de citoyens qui demandent au minimum à ce que un grand débat public puisse être organisé sur ce thème, qui donne aux citoyens l'ensemble des éléments pour se prononcer. Alors avec une difficulté, qui est toujours la même difficulté à organiser ces grands débats, qui est que d'abord on assiste, et ça vous l'avez vu depuis Fukushima, à des batailles de chiffres, où chacun sort des chiffres en matière de coûts, en matière d'emploi, d'où l'intérêt de rapports comme celui de la Cour des comptes. Et puis une deuxième difficulté qui est de sortir justement des cercles militants, convaincus ou d'experts, et d'aller vers la population qu'on entend peu et qu'on entend rarement, pour lui apporter aussi les éléments de ce débat. Sachant que, évidemment, ce débat, alors ce soir on parle spécifiquement de nucléaire, mais on ne peut pas parler de nucléaire sans parler des autres éléments en matière de politique énergétique. On est quand même dans un contexte global en matière d'environnement et d'énergie qui est beaucoup plus large que la seule question de continuer ou d'arrêter le nucléaire. Il y a évidemment la question du dérèglement climatique qui est absolument centrale et qui ne doit pas passer à la trappe dans ce débat-là. C'est un élément à prendre en compte. Alors qui est très mis en avant par les partisans du nucléaire, qui valorisent le nucléaire comme une énergie qui serait décarbonée et donc qui serait favorable par rapport à la question du réchauffement climatique. Alors par rapport à ça, c'est aussi un argument qui est régulièrement battu en brèche, par le principe, là encore, qu'il faut étudier les émissions de gaz à effet de serre produites par le nucléaire sur l'ensemble de la chaîne, en reprenant l'extraction, l'acheminement du minerai, la construction, le démantèlement, etc., d'une part, et d'autre part, en prenant également en compte le fait que, d'abord, même si le nucléaire, dans son utilisation directe, est assez peu émetteur de gaz à effet de serre, il en émet quand même, et que l'énergie produite en termes d'électricité par le nucléaire n'étant pas modulable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans les centrales un petit bouton à tourner pour augmenter et diminuer à volonté la production, eh bien quand il y a des pics de consommation d'électricité en France, dans les périodes par exemple de forte chaleur avec la climatisation et dans les périodes de froid important avec le chauffage, eh bien la France a recours à l'importation d'énergie qui là le plus souvent est d'origine fossile et donc forte émettrice de gaz à effet de serre. Donc là aussi, vous imaginez à quel point les calculs sont très compliqués en fonction de ce qu'on intègre ou non dans ces calculs d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a tout ça à prendre en compte, plus, parce que sinon ce serait trop simple, le fait que nous arrivons vers l'épuisement d'un certain nombre de ressources naturelles, à force d'aller pomper dans les réserves de la Terre, eh bien, il y a des sources d'énergie qui sont épuisables. Je pense naturellement, en premier chef, à la question du pétrole, puisque l'Agence internationale de l'énergie a elle-même dit que nous avions aujourd'hui dépassé le fameux pic de pétrole. Le pic de pétrole, c'est quoi? C'est le moment où la production en termes de barils de pétrole va commencer à décliner de manière inexorable pour arriver à un moment où le pétrole, c'est pas tant qu'il n'y en aura plus, c'est qu'il va devenir extrêmement cher, extrêmement coûteux, d'abord parce qu'il sera rare et ensuite parce qu'il sera de plus en plus difficile d'aller l'extraire, puisque évidemment vous imaginez bien que les pétroliers ont commencé par aller servir là où c'était le plus facile et le plus rentable, et que petit à petit ils vont extraire le pétrole, tout comme les gaz et huiles de schiste d'ailleurs, de plus en plus profond et dans des conditions de plus en plus compliquées et donc de plus en plus coûteuses, donc avec une baisse des ressources en pétrole et une hausse des prix du baril. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte quand on parle de politique énergétique et donc quand on parle également de choix de recourir ou non au nucléaire. Pour autant, une fois qu'on a dressé ce tableau un peu complexe, parce qu'il y a beaucoup de données à prendre en compte, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que la décision de ne pas recourir à l'énergie nucléaire est possible. Elle est possible d'abord pour un simple constat qui est que d'autres pays aujourd'hui fonctionnent sans recourir à l'énergie nucléaire. J'en cite juste quelques-uns, c'est le cas de l'Autriche, du Danemark, c'est le cas de l'Irlande, de l'Italie, de la Norvège, du Portugal, entre autres. Et puis, il y a d'autres pays qui ont fait le choix d'aller vers une sortie progressive du nucléaire. C'est le cas, bien entendu, de l'Allemagne. On en a beaucoup parlé et peut-être que nous en reparlerons aussi ce soir pendant le débat. Mais c'est le cas aussi de la Suède, de la Belgique ou des Pays-Bas. Donc, ce débat que nous avons en France, nous ne sommes pas les seuls à l'avoir. Et d'autres pays ont fait d'autres choix que le choix du tout nucléaire qui a été fait les années précédentes en France. Ensuite, il faut rappeler que le nucléaire, aujourd'hui, représente en réalité seulement 17% de l'énergie consommée en France. On entend souvent des chiffres beaucoup plus importants. On nous parle de 80-85% d'énergie. En réalité, si vous regardez bien, quand on parle de 80 ou 85%, on parle uniquement de l'électricité et non pas de l'énergie. Or, l'électricité n'est pas la seule source, évidemment, d'énergie. Donc, c'est seulement 17% de l'énergie consommée en France. Dit comme ça, déjà, ça va mieux que quand on dit que c'est 85%. Et puis ensuite, une chose toute simple, c'est que l'élan qui a été possible dans les années 70 pour développer le nucléaire, suite à la décision notamment de Messmer de lancer le nucléaire en France, il y a eu un élan incroyable. C'est quelque chose qui s'est développé très rapidement et de manière assez performante, il faut le reconnaître. Eh bien aujourd'hui, nous avons en France des ingénieurs, des chercheurs, des scientifiques, des travailleurs du nucléaire qui ont des compétences et des savoir-faire qu'il est tout à fait possible de mettre au bénéfice de l'intérêt général si on décidait de bifurquer et d'aller vers la sortie du nucléaire, ce qui a été possible pour mettre en place le nucléaire, est aujourd'hui mobilisable et possible pour décider également d'en sortir. Donc ces ressources, elles existent, des exemples, d'autres modèles existent aussi, et puis il y a des alternatives, des scénarios alternatifs qui ont été développés pour essayer d'aller un petit peu au-delà justement des positions dogmatiques pour ou contre et de voir ce qu'il était réellement possible de faire sur la base de scénarios énergétiques, chiffrés et scientifiques. Quelques exemples d'alternatives qui ont été développées ainsi. Je parlais tout à l'heure de l'EPR. Il y a une association qui a développé un scénario alternatif qui s'appelle le scénario Grand Ouest, qui s'est basé sur les 3 milliards d'euros que devait coûter au départ l'EPR pour proposer une autre utilisation de ces 3 milliards d'euros, toujours dans le domaine, bien sûr, de la production d'énergie, mais sur des énergies renouvelables. Et donc, avec la même somme en termes d'investissement au départ, ce scénario dit Grand Ouest permet de créer 10 800 emplois, là où l'EPR aujourd'hui prévoit à terme la création de 300 emplois pérennes, sachant qu'il y en a évidemment plus sur la période du chantier, à peu près 600 en termes d'évaluation d'emplois mobilisés. Juste pour, à guise de comparaison également, en Allemagne, le développement des énergies renouvelables a permis ces 10 dernières années de créer 340 000 emplois. La question de l'emploi, évidemment, ne peut pas être absente de ce débat, surtout dans le contexte de crise économique et sociale que nous connaissons aujourd'hui et au vu des derniers chiffres du chômage. Voilà un exemple d'alternative. Je ne peux pas tout développer, mais on y reviendra si vous le souhaitez. Et puis, il y a un autre scénario dont vous avez peut-être entendu parler parce que il a été revu il n'y a pas très longtemps et c'est une deuxième version qui vient de sortir, qui est le scénario qui s'appelle le scénario Négawatt, qui est un scénario qui se base sur trois leviers pour atteindre deux objectifs qui sont à la fois la fermeture donc de l'ensemble des réacteurs nucléaires en France à un horizon d'une quarantaine d'années et sur ce même horizon la réduction par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre, donc qui prend en compte à la fois la question du nucléaire et la question du dérèglement climatique. Ce scénario négawatt se base sur trois leviers d'action dont l'ordre est important. Le premier, c'est la question de la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, c'est quoi ? C'est le fait de réduire les consommations d'énergie inutiles. C'est la chasse au gaspillage des années 70-80. Donc en gros, c'est tous les appareils qui sont en veille et qui consomment de l'énergie sans apporter d'utilité sociale. Ce sont par exemple les écrans de publicité lumineux. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment à Paris, mais ça s'est mis à pulluler dans les couloirs du métro et les lieux publics. Les écrans lumineux sont une source de consommation d'électricité très importante, dont on peut questionner la pertinence en matière d'utilité sociale, de bien-être et d'intérêt général. Donc voilà quelques exemples. Et sur ce levier de sobriété énergétique, ils estiment, dans le scénario Négawatt, qui est donc une association d'énergéticiens, pouvoir économiser à peu près 15% par rapport à notre consommation d'énergie actuelle. Le deuxième levier, c'est la question de l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est là aussi une question de réduction de consommation, mais par le fait de réduire tout ce qui est déperdition d'énergie. C'est la question du rendement des appareils électriques, hein, sur lesquels il y a déjà eu pas mal de choses à traiter, avec notamment, vous savez, ces normes qu'on voit sur les appareils électroménagers en matière de consommation, avec des catégories par lettres, selon que la consommation est plus ou moins importante. C'est aussi, alors là, une mesure dont on entend de plus en plus parler dans les programmes politiques, et c'est tant mieux, la question de la rénovation thermique, puisque aujourd'hui en France, on a un parc de logements anciens, notamment singulièrement évidemment tous ceux qui datent d'avant les années 70 et avant le premier choc pétrolier, qui sont de véritables passoires en matière d'énergie, donc très mal isolés, qui en plus ont souvent été équipés de radiateurs électriques, qui ne sont pas les modes de chauffage avec le meilleur rendement, et donc un grand programme de rénovation thermique et de mise aux normes de ces bâtiments permettrait, là ici évidemment, d'économiser énormément d'énergie. Donc sur ce deuxième volet de l'efficacité énergétique, le scénario Négawatt estime que c'est une réduction de 30% de non-consommation qui pourrait être atteinte. Donc eux partent sur une hypothèse qui est très élevée, de plus de 19 millions de logements à rénover sur 40 ans, ce qui pour le coup implique aussi des politiques publiques extrêmement volontaristes en la matière et des investissements publics qui ne sont pas négligeables. Et puis le troisième pilier, une fois qu'on a mis en place des mesures de sobriété et d'efficacité énergétique, c'est pour les besoins d'énergie restants de les approvisionner au maximum par le développement des énergies renouvelables qui ont un potentiel en France qui est aujourd'hui largement sous-exploité. Alors on parle beaucoup en matière d'énergie renouvelable d'éolien et de solaire, d'ailleurs on parle à peu près que de ça. Il faut savoir qu'il y a bien d'autres sources d'énergie renouvelable qui pourraient être mises en place en France. Il y a la question de la biomasse notamment, il y a la question de l'hydroélectrique qui a encore du potentiel notamment sur du petit hydroélectrique, il y a la question de la géothermie également qui n'est pas très développée aujourd'hui en France avec des études qui montrent qu'il y a un potentiel extrêmement important, sachant que dans tout ça, de toute manière, la clé de la transition énergétique, c'est en tout état de cause la diversification des sources d'énergie. Il est évidemment il serait totalement illusoire, et d'ailleurs je ne crois pas avoir jamais entendu quiconque, même parmi les plus dogmatiques, prétendre qu'on pourrait fermer toutes les centrales de France du jour au lendemain, pas plus que je n'ai jamais entendu quiconque prétendre qu'on pourrait remplacer tout le nucléaire uniquement par des panneaux photovoltaïques ou par des éoliennes. Donc, sobriété énergétique, efficacité énergétique et énergie renouvelable, c'est le scénario Négawatt qui aboutit donc avec ces hypothèses à la fois donc à une fermeture de l'ensemble des réacteurs nucléaires et au facteur 4, donc la division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre, avec par ailleurs la création d'un certain nombre d'emplois. Donc les dernières estimations en matière de solde net d'emplois, donc avec des diminutions dans certains secteurs, de la reconversion et de la création d'emplois dans d'autres secteurs, le solde net dans ce scénario négawatt fait apparaître 1 100 000 emplois, donc à l'horizon de ces 40 ans et une fois cette mutation effectuée. Voilà quelques exemples de scénarios alternatifs auxquels je voudrais quand même rajouter d'autres conditions qui selon nous sont extrêmement importantes et représentent des conditions de réussite de toute alternative et de tout scénario de transition énergétique. La première chose, c'est la question du service public. Aujourd'hui, on assiste, hein, notamment dans le domaine de l'électricité, à un mouvement de dérégulation et de privatisation, notamment de l'entreprise EDF. C'est la traduction directe de directives européennes qui ont jugé qu'EDF était en situation de monopole et que cela était contraire à la concurrence libre et non faussée prônée par l'Union européenne et qu'il fallait donc ouvrir le marché de l'électricité et plus généralement de l'énergie à la concurrence et donc au privé. C'est ce qui est en train de se passer en France et c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre d'autres pays avec là aussi son lot de questionnements et de problèmes qui est de savoir si l'énergie, qui est là encore un bien fondamental nécessaire à la vie, est une marchandise comme les autres, et de savoir donc si l'énergie peut être laissée aux mains d'opérateurs privés qui évoluent dans un système économique capitaliste avec une recherche de profit pour répondre aux exigences des actionnaires. On a vu que cela pouvait mener à des dysfonctionnements graves. Je pense notamment à un certain nombre d'irrégularités qui ont été mises en valeur et découvertes après le drame de Fukushima, sur le fait que, par exemple, l'opérateur de ces installations, TEPCO, qui est un opérateur privé, avait dissimulé un certain nombre de dysfonctionnements pour ne pas voir le cours de ses actions chuter en bourse. Sans aller si loin à l'autre bout du monde, en France, il y a de plus en plus de témoignages, notamment de syndicats internes à EDF, mais aussi de dirigeants d'EDF sous couvert d'anonymat, de dysfonctionnements, là aussi, dus à une recherche de rentabilité qui est aujourd'hui incompatible avec des exigences de sécurité, de durée, par exemple, d'arrêt des réacteurs pour maintenance, qui ont parfois tendance à se raccourcir parce qu'un réacteur à l'arrêt, ça coûte très cher et nuit donc au profit qui pourrait être dégagé par une entreprise en voie de privatisation. Donc, c'est une, là pour le coup un avis que je mets au débat. Si nous voulons à la fois assurer la sécurité des installations existantes, parce que qu'on soit pour ou contre la sortie du nucléaire et quelle que soit la durée préconisée, ces centrales aujourd'hui existent. Pour assurer la sécurité de ces centrales, à titre personnel et politique, il me semble que le service public est mieux placé que des opérateurs privés concurrentiels pour garantir des conditions de travail, de qualification et des normes de sécurité satisfaisantes. Ça, c'est la première chose. Et puis l'autre chose, c'est que par rapport aux différents exemples de mesures à mettre en œuvre pour faire des économies d'énergie et pour assurer une transition énergétique, par rapport à toutes ces mesures nécessaires, il y a besoin que les pouvoirs publics, que la collectivité aient les rênes en main, soit capable d'impulser ce développement des énergies renouvelables, soit capable d'impulser cette rénovation thermique des bâtiments, et non pas uniquement d'être sur des recommandations ou des avis pour inviter des opérateurs privés ou des citoyens, des individus qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans la rénovation de leur habitat, par exemple, que donc la collectivité publique puisse avoir les rênes sur ces politiques énergétiques, ce qui nous mène à l'idée d'avoir un grand pôle public de l'énergie en France qui puisse regrouper des acteurs comme EDF, GDF, comme Total, comme Areva, dans un pôle public de l'énergie qui nous permette de prendre en compte toutes ces données dont je vous faisais part au début, à la fois en termes de climat, mais aussi de pics de pétrole, mais aussi de nucléaire, et d'avoir une politique cohérente, globale, avec les moyens publics pour la mener à bien, sachant que c'est une... De toute manière, quels que soient les choix que l'on fait, ce sont des choses qui se feront sur un temps long, qui ne se feront pas du jour au lendemain et sur lesquelles il y a besoin de planifier et d'anticiper à long terme des trajectoires, ce que aujourd'hui les opérateurs privés et singulièrement les multinationales ont du mal à faire puisque nous sommes de plus en plus dans le temps court en matière de logique économique. Donc voilà pour ces éléments sur la question politique, puisque puisque j'ai été invitée à intervenir sur cet angle-là. Donc vous voyez que dès lors qu'on parle de nucléaire, ça induit des choix et des problématiques qui vont bien au-delà de la question de on ferme pas, combien de réacteurs, en combien de temps. Ça touche aux questions de précarité énergétique, ça touche aux questions sociales, ça touche aux questions de maîtrise publique et donc de choix forts en matière de politique générale et en matière de politique économique gouvernementale, nationale, voire européenne et internationale. Voilà, je crois que nous avons là quelques éléments déjà probablement très largement pour initier un débat passionnant ce soir sur la question du nucléaire. Donc je ne vais pas être plus longue. Je vous passe la parole pour réagir. Alors juste avant que vous vous lanciez et que nous nous lancions dans ce débat, pour bien préciser que ce n'est pas une invitation uniquement à poser des questions, puisque comme je vous l'ai dit, je n'ai pas prétention à être l'experte qui vient la vérité révélée, comme j'espère que vous l'aurez ressenti dans mon exposé. Donc c'est pas forcément des questions, ça peut aussi être bien sûr des remarques et des points de vue différents, de la même manière que le sens question-réponse ne va pas forcément de la tribune à la salle et qu'il peut y avoir des échanges de questions-réponses au niveau du public également. La parole est à vous.